l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maïdéléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Maïdéléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radio-journal. Au sommaire, l'approvisionnement en médicaments reste un véritable casse-tête dans certaines structures sanitaires et officines pharmaceutiques privées, notamment dans les zones reculées touchées ces derniers mois par les affrontements armés. Malgré les efforts consentis par les services techniques de la santé, plusieurs centres enregistrent des ruptures de médicaments compliquant la prise en charge des patients. On en parle dans cette édition du journal. Au sommaire également, les marchés regorgent des produits dont la date de péremption est dépassée, parfois même avariée. Exposés à ciel ouvert, ces produits présentent des graves risques pour la santé des consommateurs. Une situation qui met en lumière des failles persistantes dans le mécanisme de contrôle tant à l'entrée sur les territoires que dans la circulation de marchandises dans la ville. On en parle également dans cette édition du journal. Et puis en sport, cap sur la CAN Maroc 2025 avec les demi-finales prévues ce mercredi 14 janvier. Au programme, Sénégal-Égypte d'un côté, Maroc-Nigéria de l'autre. Les vainqueurs se retrouveront en finale le dimanche 18 janvier prochain. La technique est assurée par Émile Mouindo. Microphone pour la présentation, je suis Omar Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïdéléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et débutons cette édition du journal par cette information. L'AFSEM 23 exige un éclaircissement sur la nature exacte de la nouvelle démarche envisagée par Félix Tshisekedi à Luanda pour des négociations en vue du retour de la paix à l'est de la RDC. Ceci dans le but de connaître s'il s'agit d'un nouveau processus de négociation, de la mise en place d'un processus parallèle à celui conduit à Doha ou d'une initiative complémentaire appelée à s'inscrire dans la continuité et le renforcement du processus de Doha. Hélène vous dirait pour les détails.
Ceci est compté nuit dans la réponse de l'AFSEM 23 à l'invitation lui envoyée par le président de la République d'Angola, João Lourenço, au sujet de ses consultations. Dans cette correspondance, l'AFSEM 23 loue les initiatives de Luanda, mais veut voir clair dans ses nouvelles consultations afin de connaître les rôles que va jouer ces pays, compte tenu des initiatives déjà amorcées. À en croire la coordination politique de l'AFSEM 23, le mouvement veut être éclairé sur la nature exacte de la démarche envisagée afin de connaître s'il s'agit d'un nouveau processus de négociation. Il veut également savoir si la médiation qatari sera associée à cette éventuelle rencontre et le rôle qu'elle va jouer compte tenu de son implication centrale dans les processus en cours. Pour l'AFSEM 23, la multiplication des forums de négociation pour une paix non coordonnée et la superposition des médiations concurrentes constituent des faiblesses structurelles majeures incompatibles avec les exigences de stabilité, confiance mutuelle et de continuité politique qui requiert tout processus de paix crédible et soutenable. Ces mouvements dits demeurer pleinement engagés dans la recherche d'une solution pacifique globale et durable. La crise congolaise, rappelant que le processus de paix en cours a été engagé dans le but de partager et parvenir à une résolution des causes profondes du conflit par des négociations politiques. Par ailleurs, les mouvements accusent Kinshasa des tergiversations et des manipulations récurrentes, tout en plaidant auprès de Lourenço pour une clarification visant à garantir cohérence et efficacité dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité régionale. Néanmoins, l'AFSEM 23 rappelle que les deux parties sont arrivées, malgré les difficultés, à conclure 5 instruments majeurs à portée internationale. C'est notamment le communiqué conjoint signé le 24 avril 2025 entre l'AFSEM 23 et le gouvernement, la déclaration des principes, les mécanismes pour la libération des détenus par les parties, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu et l'accord cadre de Doha.
Merci à vous, Hélène Boudjiriri. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, c'est depuis des mois que plusieurs zones de santé de la province du Sud-Kivu font face à un manque criant d'intrants pour la prise en charge des malades, plus particulièrement les épidémies comme le choléra et la rougeole, ainsi que des cas de malnutrition et même des maladies endémiques comme la malaria. De même, l'approvisionnement des médicaments dans des structures et officines pharmaceutiques privées pose toujours problème, plus particulièrement dans des zones reculées et dans lesquelles des combats ont été signalés ces derniers mois. Myriam Mofano pour les détails.
Plusieurs alertes parvenues à la rédaction des radios Maïndéléo font état de la rupture de produits dans des structures sanitaires, malgré d'importants efforts fournis par le service technique du gouvernement et le partenaire dans le domaine de la santé. Si certaines responsables de zones de santé se réservent au regard de la situation dans la zone sous leur responsabilité, laissant la parole à la société civile et au mouvement citoyen, d'autres n'hésitent pas à alerter sur les risques que courent les populations. Dans le territoire des Chabonda, par exemple, les médecins chefs des zones indiquent que pour s'approvisionner, il faut désormais passer par Kindu ou Maniema ou encore Beni au Nord Kivu, ce qui rend l'accès difficile aux soins de santé pour une population pauvre. La situation est similaire dans plusieurs zones de santé d'Uvira, Walungu, Fizi, Mwenga, Itombwe et Idjui, alerte des sources de la société civile appuyées par les agents sanitaires. Dans le territoire des Calais également, c'est depuis plusieurs mois que l'accès humanitaire sur plusieurs zones de santé est compromis suite aux affrontements récurrents dans les hauts plateaux tout comme envers Kalongi et Bunyakiri. Des rapports des organisations de la société civile indiquent qu'une fois tombés malades, les habitants se rendent dans des hôpitaux et autres structures sanitaires. Une fois reçus, le personnel soignant procède au diagnostic, mais faute de moyens, le malade est renvoyé chercher le médicament dans les officines pharmaceutiques périphériques. Ici aussi, il s'observe une absence remarquable de médicaments, une situation qui oblige le malade à se tourner vers les alternatives risquées comme l'automédication, les tradis praticiens parfois improvisés ou alors vers des chambres de prière. Pour Yoeli Nyabirungu, militant du mouvement citoyen au BAPEJRDC Noyau de Kalongé, les familles déplacées des guerres sont parmi les catégories qui sont exposées à plus de risques en pareilles circonstances. Il souligne l'insuffisance de l'appui de partenaires dans d'autres coins de la province où l'aide n'attend que certains centres de santé ainsi que la fermeture de plusieurs routes stratégiques pourtant essentielles pour l'approvisionnement des territoires. Yoeli Nyabirungu plaide pour l'ouverture d'un couloir sécurisé afin de permettre l'acheminement rapide des entrants médicaux dans les zones enclavées en vue de sauver le vice en danger.
En tout cas, plusieurs zones de santé aujourd'hui font face à une pénurie critique de médicaments et pour répondre aux besoins et sanitaires qui sont les plus élémentaires. Dans mon territoire de Calais, par exemple, bon nombre de personnes s'auto-soignent et d'autres consultent même les féticheurs par manque à faire. En tout cas, c'est les recours alternatifs aujourd'hui envisagés par la plupart des patients et ce qui s'explique en partie par le manque requérant d'intrants médicaux dans les structures sanitaires de la place. Même lorsque celles-ci sont accessibles, il devient en tout cas plus difficile de recevoir un traitement adéquat. Nous lançons en tout cas un appel pressant à la mobilisation de tous les cadres ou les acteurs concernés, les partenaires, les autorités aussi provinciales, les ONG, de bien vouloir travailler dans l'urgence pour essayer d'apporter une réponse rapide à ces populations aujourd'hui.
Précisons que dans d'autres zones de santé comme celle des Noudou et Fizi, l'on rapporte la fuite du personnel médical et la fermeture de certaines structures sanitaires après avoir été attaquées et pillées par les combattants armés. Tout en encourageant les interventions d'urgence et les appuis de certaines structures médicales, les organisations de la société civile recommandent un appui plus large afin de couvrir le plus des besoins en termes de soins de santé.
Merci à vous Myriam Mofano. Pendant ces temps, la société civile du groupement Nyakalingwa en territoire d'Idjouine alerte sur le risque des maladies hydriques dans le village Kilala, Mulamba, Mazina et Karama suite à une pénurie d'eau potable dans cette partie de la chefferie Tambuka. Hermando Zabona, président de cette structure citoyenne, précise que les habitants de ces villages n'accèdent plus à l'eau potable depuis 2 mois suite à ce qu'il qualifie de mauvaise gestion du comité d'adduction qui raccorde les particuliers. Cette gestion serait caractérisée par le clientélisme et la complaisance, une situation qui affecte des milliers d'habitants qui sont obligés de puiser l'eau du lac Kivu, ce qui les expose aux maladies d'origine hydrique. Hermando Zabona en parle au micro de Richelieu Biamana.
À Nyakalengwa, dans le village Kilala, Mulamba, Mazina, Karama et une partie du village Mohongwe, la population risque de subir encore des maladies à caractère hydrique suite à une mauvaise gestion du comité d'addiction d'eau. Il y a à peu près 2 mois que la population de ce village précité ne trouve pas d'eau de boisson, alors que les raccordements des particuliers sont toujours opérationnels 24 heures sur 24 heures. Nous avons contacté ce comité pour la même cause, mais sans succès toujours. Nous déplorons aussi le comportement ignoble du technicien de ce même comité à la personne de Luhando, qui, malgré les conseils, malgré les reproches, il se prend toujours à un électro libre dans ce domaine. Nous voulons voir ce comité, ou soit ce gestion d'addiction d'eau, aux mains du chef de groupement, ou soit du comité de développement CDG, longtemps marginalisé dans la gestion des prises de décision avant de tout raccordement. Sinon, la population souffre, la population ne connaît même plus où aller puiser. Vraiment, c'est assez, trop, c'est trop. Nous ne voulons plus même ce comité.
Contacté à ce sujet, Tchabouenemoa Mimoutaba, président de l'adduction d'eau de Nyakalengwa, parle plutôt de la surpopulation. Il explique que l'adduction a été construite depuis 2005 et qui n'a jamais connu de renforcement. Pourtant, elle fait face à plusieurs problèmes techniques ces derniers temps. Il ajoute aussi que lorsque l'eau est envoyée au centre hospitalier Nyakalengwa, cela provoque des ruptures sur le borne fontaine publique. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maïndélo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Maïndélo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
La suite de cette édition du journal, 11 opérateurs des transferts de monnaie électronique ont été tués sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu au courant de l'année 2025. En plus de ces 11 cas de tuerie, 17 cas de braquage contre les maisons des transferts de monnaie électronique ont été enregistrés durant la même année en province du Sud-Kivu. Ces chiffres ont été rendus publics au cours d'une rencontre organisée dimanche dernier à Bukavu par l'association des agents des transferts de monnaie électronique dans la province du Sud-Kivu, ATMS en sigle. Pour les coordonnateurs de cette association, Valérian Belizi, ces cas de tuerie et braquage sont l'œuvre des personnes mal intentionnées qui ciblent les agents de transfert des monnaies électroniques. Pourtant, ils ne sont que des facilitateurs d'opérations au profit de la population. Dans le souci de limiter ces cas de braquage et tuerie, Valérian Belizi invite ses collègues à plus de vigilance. Il rassure par ailleurs que le travail sera fait avec les autorités pour remédier les cas d'insécurité. Dans le même sens, les coordonnateurs de l'ATMS saluent la mobilisation et l'engagement des membres pour l'année 2025 coulée et les appels à plus d'union pour que cette année 2026 soit une réussite. Valérian Belizi en parle.
Nous aimerions que cette activité soit pour nous un baromètre de performance et pendant cette occasion, nous avons essayé de parler avec tout le monde au sujet des défis que nous avons connus tout au long de l'année 2025 et nous avons aussi profité de l'occasion pour définir nos perspectives de 2026. Le message est clair, nous sommes en train d'interpeller tous les agents de transfert de monnaie à l'unité et à la solidarité, mais aussi de travailler de façon que nous puissions mitiger tous les risques qui accompagnent la profession que nous avons tous choisie. Malgré tous les risques qui accompagnent la profession, nous sommes déterminés ensemble pour étudier et prendre les mesures efficaces pouvant nous mettre à l'abri de tous les dangers. Vous voyez actuellement, il y a des personnes détentrices des armes qui sont en train de cibler les agents de transfert de monnaie. Et voilà, tout cela, ça fait partie des défis que nous sommes en train de connaître. Et ensemble, nous allons voir comment travailler avec les autorités politico-militaires afin de mettre un terme à cette pratique-là.
À cette même occasion, un échange de vœux entre les membres de cette association a été organisé. Précisons que l'association des agents de transfert des monnaies électroniques a, entre autres, pour mission d'encadrer tous ceux qui exercent cette activité à travers l'entraide mutuelle. Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition du journal. Depuis quelques mois, les marchés de la ville de Bukavu et ses environs sont bondés de produits dont la date de péremption est déjà arrivée à terme et même de produits avariés. Dans des boutiques tout comme chez les vendeurs ambulants, ces produits sont vendus à ciel ouvert, souvent en se méfiant des conséquences. Selon plusieurs alertes parvenues à la rédaction des radios Maïndéléo, les catégories des produits concernés sont notamment les biscuits, les boissons, certains aliments dans des boîtes de conserve, des jus en plastique et même des médicaments. N'est-ce pas, ma Pendolinda?
Des consommateurs ayant contacté écoutez votre rédaction, s'est dit étonné de constater que même dans certains hôtels de la place, des boissons périmées continuent d'être servies aux clients. Il en est de même dans les officines pharmaceutiques ou encore dans des pharmacies de la rue où l'on voit des médicaments dont la date d'expiration a largement dépassé, mais les produits restent en circulation. Si certains consommateurs avisés prennent le temps de vérifier la qualité du produit leur proposé, d'autres n'ont même pas une seconde de vérification, ce qui expose de plus en plus à développer des maladies et ou lésions liées à la consommation des produits avariés ou périmés. Pour Daniel Mouroula, enseignant d'université, la présence et la vente de ces produits sur les marchés dénotent d'une négligence dans les contrôles des produits lors de l'entrée, tout comme lorsqu'ils sont déjà en pleine circulation sur les marchés. Il rappelle que la consommation de ces produits constitue un danger public pour la communauté, car elle peut entraîner des conséquences sur la santé des populations. Daniel Mouroula.
Dès lors que les médicaments sont périmés, ces produits deviennent directement du poison. Donc ce sont des produits toxiques. Donc quand vous consommez ces produits, au lieu que les patients soient soignés, ces produits créent d'autres maladies. Il faut que les services soient actifs au niveau des frontières, bien vérifier tout ce qui entre au niveau de notre pays, la date d'expiration et de voir si, est-ce que ces produits... Il y a aussi cette malignité. Parfois, les opérateurs économiques, ils peuvent importer un produit et dès lors qu'il arrive quelque part, ils changent l'étiquette. Alors que le produit est déjà périmé. Mais quand vous goûtez, vous sentez que l'odeur ou le goût, ce n'est plus le même. Donc les autorités doivent bien jouer leur rôle. Gouverner, c'est prévoir. Et la prévention doit être aussi à ce niveau de l'alimentation parce qu'une mauvaise alimentation constitue déjà une intoxication ou un poison pour la population. Nous assistons toujours à des contrôles, surtout pour s'il faut payer des taxes. Il y a des campagnes de sensibilisation et des journées fiscales qu'on organise pour conscientiser la population. Je crois que c'est de cette même manière que l'État doit prendre ses responsabilités pour bien contrôler ainsi que sensibiliser la population par rapport à la consommation des produits qui sont périmés et quelles sont ses conséquences.
Il recommande aux opérateurs économiques de prendre conscience. Selon lui, tout opérateur qui mettrait des produits périmés et ou avariés sur le marché en connaissance des causes fait montre d'un manque d'amour pour le prochain en mettant délibérément en danger la vie. Cet enseignant d'université demande également à la population d'être vigilante et de toujours vérifier les dates de péremption ainsi que l'état des emballages avant toute consommation. Il appelle les autorités en place à renforcer les mécanismes de contrôle afin de lutter contre ces phénomènes. C'est notamment en envoyant les inspecteurs sur les terrains pour effectuer des contrôles réguliers, retirer de la circulation tous les produits périmés et sanctionner les récalcitrants, estime Daniel Mouroula.
Merci à vous, ma Pendolinda. Dans le reste de l'actualité, la Société nationale d'électricité SNEL SA, direction régionale du Sud Kivu, a lancé depuis le week-end dernier à Kalengera, dans la commune de Bagira, les travaux d'assainissement du réseau basse tension et d'installation des compteurs après paiement cash power. Le lancement officiel a été effectué sur place par le gouverneur de province sous la FSM 23, Patrick Busubangui Chombo. Détail avec Alain Kabika.
Cette opération s'étend également dans les avenues Texas à Karale, Clinique, ITFM, Labo Inyaruizi Zimia au quartier Nkafu et Nyakaliba en commune de Kadutu. Il vise, selon la SNEL, à moderniser la distribution, réduire les pertes techniques et commerciales, mais aussi renforcer la facturation via les systèmes à prépaiement, désormais présentés comme prioritaires dans les zones urbaines. Cette initiative est saluée par plus d'un habitant des entités concernées. C'est le cas de Gaspard Bizimana, habitant du quartier Nkafu. Il condamne néanmoins la confusion et les contradictions déjà perceptibles au sujet des frais et conditions d'acquisition du compteur. Il invite la SNEL à faire preuve de professionnalisme et achever ses travaux dans les délais pour soulager la population de cette partie de la ville de Bukavu. Gaspard Bizimana en parle.
Nous encourageons vraiment les initiatives de la SNEL de doter les habitants du quartier Nkafu, Nyaruzimia et consorts de l'installation du cash power. Cependant, s'agissant des rumeurs aussi qui circulent que les compteurs sont payables, nous demandons à la SNEL de communiquer officiellement sur les frais à payer tout en tenant compte de la vulnérabilité de la population en cette période où elle n'a ni boulot ni occupation. Et en plus de cela, nous demandons aussi à la SNEL de faire vite pour éviter les pires aux habitants de ces quartiers, étant donné que l'obscurité est la source de l'insécurité.
D'après une source proche de la SNEL, pour l'obtention des compteurs après paiement, les coûts d'acquisition est fixé à 140 $ américains par ménage. D'après la même source, Ces tarifs découleraient du prix imposé par les fournisseurs du matériel. Lors du lancement de l'opération, la SNEL a invité les abonnés des secteurs concernés à se présenter à la direction régionale sur avenue du gouverneur afin d'accomplir les formalités d'usage. La reconnexion au réseau se fera de manière progressive, avenue par avenue, au fur et à mesure de l'activation des nouveaux compteurs.
Merci à vous Alain Kabika. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que toutes les maisons où sont produits des bruits sonores sur toute l'étendue du quartier d'Endere en commune d'Ibanda seront identifiées à la date de ce lundi 12 janvier 2026. Le rapport sera transmis à la hiérarchie pour prendre des mesures qui s'imposent contre la pollution sonore. C'est ce qu'on dit que le chef de quartier d'Endere, le pasteur Miga Bonyagaza Albert, dans un entretien avec Radio Maïndéléo. Ce dernier explique que cette mesure est prise après plusieurs plaintes des habitants de certaines avenues qui se plaignent du bruit produit par des maisons commerciales, des églises et chambres de prière, des éditions et publiphones. Il ajoute que ce bruit perturbe la quiétude et le déroulement normal des activités, surtout celles qui exigent une concentration intellectuelle. Il en est de même pour certains véhicules de transport en commun où des haut-parleurs sont installés et le volume de la musique est haussé contre les grès des passagers. A cet effet, les éléments de l'ordre seront déployés dans des avenues du quartier d'Endere pour traquer les récalcitrants, prévient Miga Bonyagaza Albert.
Les instruments sonores de grande puissance sont utilisés sans respect des normes environnementales. Nous avons été alertés par la population qui s'indigne d'une pollution sonore suite à une prolifération fulgurante des chambres de prière, des maisons d'édition, des ventes des œuvres pornographiques émettant des nuisances sonores aussi dures que nocturne. Ça perturbe la concentration des voisinages, des passants et les bus scolaires, les bus de transport en commun n'ont pas été épargnés. Les cadres de base puissent identifier ces maisons et aussi que les institutions scolaires, les associations de transport en commun puissent se saisir de cette question et en fait que la police puisse traquer les indociles pour le bien-être de la population que nous sommes. Voilà un peu la résolution que nous venons de prendre dans une grande réunion au niveau du quartier, que les chefs d'avenir puissent intervenir et identifier d'abord ces maisons pour que les autorités puissent prendre des décisions palliatives à ces problèmes.
Il appelle les responsables des associations qui encadrent les chauffeurs à sensibiliser leurs membres au respect des passagers lorsqu'ils jouent la musique dans leurs engins.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïndéléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, poursuite du championnat de l'entente urbaine de football de Bukavu, c'est mardi 13 janvier 2025 avec deux rencontres au programme. À 13h30, Classe Académie jouera l'FC Dynamique et à 15h30, l'FC Boili défiera le FC Régisport. Toutes ces rencontres se joueront au stade de la Concorde de Kadutu. Et toujours en football, lancement du championnat au cercle de football des Cabarets, l'FC Lumière a battu Dynamic City de Baguira dimanche sur le score sans appel de 3-1, selon le président du FC Lumière, Jacques Chirimouami, qui nous livre l'information. Sur le plan national, Étoile de Kivu a coulé face à Vita Club dimanche 1 janvier au stade Joseph Kabila de Kindu pour son entame de la phase retour. Après cette défaite, Étoile de Kivu occupe actuellement la 7e place du championnat avec actuellement 17 points avec le même nombre de points avec Rangers qui est 6e. Par ailleurs, l'OC Bukavu Dawa reste dernier avec 5 points seulement. Pour rappel, l'OC Bukavu Dawa a concédé un match nul sans but contre Ange Vert samedi dernier pour son premier match de la phase retour. Et en Afrique, place à la dernière ligne droite avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les affiches des demi-finales se joueront ce mercredi 14 janvier 2026. À 19h, le Sénégal défiera l'Égypte dans ce qui a été l'affiche de la finale de l'édition 2020. Et à 22h, le Maroc jouera le Nigeria dans le choc de la soirée. Les vainqueurs de ces rencontres s'affronteront dans une finale inédite le dimanche 18 janvier 2026.
La revue de presse. Radio Maïndéléo Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La mort du président du conseil urbain de la jeunesse de Kamituga et le retrait de l'homologation du stade de martyrs par la CAF font partie des sujets écrits par la presse. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
la ville de Kamituga dans les territoires de Mwenga et Tandéi. C'est le titre de la prix Nelly RDC. Georges Biekawalangwa, président du conseil urbain de la jeunesse de Kamituga, est décédé dimanche 11 janvier 2026 à Bujumbura, au Burundi, des suites d'une courte maladie. Selon des sources proches de sa famille biologique, le défunt avait été évacué au Burundi pour y recevoir des soins médicaux appropriés. Son état de santé n'était, selon ces mêmes sources, pas jugé critique à son admission. En raison de la situation sécuritaire jugée très précaire dans la région de Kamituga, son inhumation pourrait avoir lieu sur place au Burundi. L'annonce de sa disparition suscite une vive émotion au sein des organisations des jeunesses de Kamituga et de l'ensemble de la province du Sud Kivu. Plusieurs structures des jeunes saluent la mémoire d'un leader engagé, considéré comme un guide et une référence pour une jeunesse en quête d'émergence. De l'autre côté, les médias en ligne Actualité.cd revient sur les sit-ins des professeurs de l'université de Kinshasa et Nukine après l'assassinat de l'un des leurs. Les médias précisent que selon les organisateurs, une délégation des enseignants a été reçue par les ministres de l'Intérieur. Les échanges ont porté essentiellement sur les questions de sécurité dans les sites universitaires et les quartiers environnants. Cette mobilisation faisait suite à l'assassinat du professeur Diabara Bata Machesona, également connu sous les noms de Mathieu Abata, enseignant à l'UNIKINE, abattu par des bandits armés à son domicile dans la commune de Lemba. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa avait alors annoncé la suspension de toutes les activités académiques jusqu'à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Terminons avec cet article du congoquotidien.com qui parle de la CAF qui retire l'homologation du stade des Martyrs, un coup dur pour le football congolais et la CAN 2029. La Confédération africaine de football, CAF, vient de porter un jugement sans appel. Le stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa n'est plus aux normes. La dérogation exceptionnelle qui permettait à l'enceinte mythique d'accueillir des matchs continentaux est officiellement retirée. Une décision lourde de conséquences tombé dimanche 11 janvier qui plonge le football national dans une nouvelle zone de turbulence, fait savoir ses médias. Le verdict est tombé après de nouvelles inspections techniques menées par les émissaires de l'instance dirigeante. Et le constat est sans concession. La pelouse cœur battante de toute arène footballistique ne répond pas aux standards. Les dispositifs de sécurité présentent des failles jugées inacceptables pour accueillir des foules dans des compétitions de haut niveau. L'absence d'équipements médicaux adéquats et l'état défectué des installations sanitaires ont achevé de convaincre les inspecteurs. Face à cet ensemble de manquements, la CAF n'a pas transigé la licence provisoire. Est révoqué. L'impact est immédiat et frappe de plein fouet la représentation congolaise en Coupe d'Afrique, note Congo Quotidien. L'AS Maniema Union, engagée dans l'arène de la Coupe de la Confédération, se retrouve soudainement sans stade pour jouer à domicile. Le club de Kindu, porteur des espoirs d'une province entière, est contraint à l'exil. La solution de repli des stades Stepe Mazembe de Lubumbashi à plus de 1500 km de ses supporters, en déracinement qui alourdit considérablement la tâche des joueurs et prive le football national d'un de ses bastions. Le scénario est cruellement identique à celui vécu par les FC Saint-Éloi Lupopo. Le message est clair, sans infrastructure digne de ses noms, les clubs congolais sont condamnés à jouer un nomade sur la scène continentale, précise ce tabloïd.
Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle d'Emile Mouindo. Microphone pour la présentation. C'était bien moi, Omar Moudekereza. Au revoir.